Bonsoir à tous, il est 20h à Paris, 14h à Toronto, et vous êtes bien sur RFI.
Véronique Rigolet.
À la une ce soir, en pleine guerre commerciale, Donald Trump repousse un mois les sanctions contre le Mexique, alors qu'au Canada, l'Ontario opère ses premières représailles. L'Europe inquiète, promet-elle de riposter fermement en cas de droits de douane punitifs. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Washington, premier dirigeant étranger à être reçu par Donald Trump demain à la Maison-Blanche. Alors que s'ouvre la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza, le président américain estime ce soir qu'il n'y a aucune garantie que la trêve à Gaza tienne. En France, le premier ministre François Bayrou dégaine ses 49-3 sur le budget, mais devrait échapper à la censure, alors que le Parti socialiste ne votera pas au nom de la stabilité politique. Enfin, à Madrid, l'ex-patron du foot espagnol jugé pour un baiser forcé, la victime, la footballeuse Jenny Hermoso, dénonce l'agression de son patron et les pressions qu'il a ensuite exercées sur elle pour tenter d'étouffer le scandale. Après avoir déclaré la guerre commerciale contre ses proches voisins canadiens et mexicains, Donald Trump négocie directement avec eux au téléphone. Et il a donc ainsi accepté cet après-midi de suspendre d'un mois les droits de douane de 25% contre le Mexique, qui devaient entrer en vigueur dès demain. Suspension accordée après que la présidente mexicaine ait annoncé un renfort de 10 000 agents de la garde nationale à la frontière entre les deux pays, afin, comme l'avait demandé le président américain, d'éviter le trafic de drogue du Mexique vers les États-Unis. Les discussions entre le président américain et le premier ministre canadien Justin Trudeau, menacé des mêmes sanctions commerciales, semblent en revanche avoir été beaucoup moins cordiales. Et Doug Ford, le premier ministre de la province canadienne de l'Ontario, le cœur économique du pays, eh bien, a annoncé que l'Ontario ne ferait plus affaire avec aucune entreprise américaine. Oriane Gendreau.
Sur le réseau social X, Doug Ford ne mâche pas ses mots. Je cite « L'Ontario ne fera pas affaire avec des gens qui tiennent à tout prix à détruire notre économie. » Le gouvernement de la province bannit donc dès aujourd'hui toutes les entreprises américaines des contrats publics. Il va même plus loin en ciblant directement l'entreprise d'Elon Musk, grand allié du président américain Donald Trump. Il met ainsi fin à un contrat de plus de 66 millions d'euros avec la société du multimilliardaire Starlink. Elle donnait accès à Internet à des milliers de foyers et d'entreprises dans la province canadienne. D'après le premier ministre de l'Ontario, les entreprises américaines en contrat avec la province risquent de perdre des dizaines de milliards de dollars canadiens de revenus. Le gouvernement attribue chaque année près de 30 milliards de dollars canadiens, soit 20 milliards d'euros en contrat. Elles ne peuvent blâmer que le président Trump, souligne Doug Ford.
Et cette première salve annoncée de taxes douanières a en tout cas plombé aujourd'hui les marchés boursiers, très inquiets du risque d'emballement d'une guerre commerciale. Consternation et inquiétude également en Europe, où les menaces de Trump sont venues perturber l'agenda défense des 27 réunis à Bruxelles. Les dirigeants de l'Union européenne qui ont mis en garde contre une guerre commerciale qui nuirait aux consommateurs des deux côtés de l'Atlantique, avant de menacer directement les États-Unis d'une riposte ferme en cas de droits douaniers punitifs. Sur le dossier proche-oriental, Donald Trump estime ce soir qu'il n'y a aucune garantie que le cessez-le-feu à Gaza tienne. Déclaration du président américain qui s'apprête à accueillir en grande pompe demain Benjamin Netanyahu à la Maison-Blanche. Le premier ministre israélien sera ainsi le premier dirigeant étranger à être reçu par le président américain depuis son investiture. Symbole de l'alliance indéfectible entre les deux pays. Une visite où il sera bien sûr grandement question de la reprise cette semaine des négociations entre le Hamas et Israël sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Ce soir, en tout cas, le mouvement islamiste palestinien se dit prêt pour cette nouvelle phase de négociation. En Allemagne, les conservateurs allemands de la CDU réunis en congrès aujourd'hui ont tenté de se refaire une santé à 3 semaines des élections législatives en misant tout sur le thème de l'immigration, malgré les vives critiques suscitées par leur début de rapprochement sur ce même sujet avec l'extrême droite. À Berlin, la correspondance de Pascal Thibault.
Nous allons gagner cette élection avec un très bon résultat. Friedrich Merz se présente déjà comme le futur chancelier. Un sondage ce lundi crédite les chrétiens démocrates de 30% des voix, soit deux fois plus que le SPD du sortant Olaf Scholz. Le Congrès adopte à l'unanimité un paquet de 15 mesures destinées à être mises en place après les élections. Un programme économique et social d'inspiration libérale, avec baisse d'impôts notamment. D'autres propositions visent à réduire les flux migratoires et ont été présentées la semaine dernière au Parlement. Friedrich Merz estime, et les sondages lui donnent raison, que les Allemands veulent des mesures plus fermes. Mais pas forcément en les faisant adopter avec l'extrême droite, comme cela s'est produit la semaine dernière, avec une motion au Bundestag qui a remis en cause le cordon sanitaire autour de l'AFD. Au Congrès, Friedrich Merz, largement critiqué, à commencer par des milliers de manifestants ces derniers jours, veut mettre les choses au clair.
Nous ne coopérerons pas avec l'alternative pour l'Allemagne, jamais. L'AFD est contre la relation transatlantique, elle est contre l'euro, elle est contre l'OTAN. Il n'y a ni coopération, ni tolérance, ni gouvernement minoritaire. L'AFD est notre adversaire central dans cette campagne.
Délégués du Congrès se lèvent et applaudissent à tout rompre leur président après cette mise au point, mais l'image de la CDU reste entachée. Au Congrès de la CDU, aucune critique ne se fait entendre. Les électeurs trancheront le 23 février. Si des comptes sont à régler, ils le seront ensuite. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En France, le Premier ministre force l'adoption du budget, mais devrait échapper à la censure. François Bayrou a engagé cet après-midi ses premiers 49-3 sur les budgets de l'État et de la Sécurité sociale pour faire adopter ces textes sans vote, déclenchant une motion de censure de la France insoumise. Motion qui sera votée mercredi par les écologistes et les communistes, mais pas par le Parti socialiste. Le PS s'est prononcé aujourd'hui contre la censure du gouvernement au nom de la stabilité politique. Le PS qui prévoit néanmoins de déposer une autre motion spontanée, mais qui n'a aucune chance d'être adoptée sans la droite, sur les valeurs de la République, après les propos de François Bayrou sur le sentiment de submersion migratoire. Explication du député PS Laurent Baumel, au micro de Victorien Villaume.
L'idée, c'est qu'on est sensible à la demande qui nous est faite par des élus locaux, par des responsables associatifs, par des chefs d'entreprise, que la France ait un budget. Les gens en ont besoin pour avoir leurs dotations, leurs subventions, pour que les investissements publics, les chantiers puissent démarrer. Mais en même temps, on a un budget qui ne comporte pas de concessions réelles à la gauche. Et on a surtout à côté de ça un Premier ministre qui, la semaine dernière, a multiplié des déclarations qui nous posent problème sur l'immigration. Il a parlé de submersion, il a fait des clins d'œil au Rassemblement national. Et donc la décision qu'on a prise dans les instances du Parti socialiste, c'est de ne pas empêcher la France d'avoir un budget là dans l'immédiat, mais derrière, très rapidement, de déposer une motion de censure pour censurer et essayer de faire tomber ce gouvernement.
Le député socialiste Laurent Baumel. Enfin, en Espagne, l'ouverture ce matin d'un procès retentissant, celui de l'ancien patron du football espagnol, Luis Rubiales, jugé pour le baiser imposé devant le monde entier à l'international Jenny Hermoso en 2023. Depuis, Rubiales est devenu le symbole du masculinisme agressif. Le procès a commencé ce matin avec le témoignage de la plaignante, comme nous le rapporte notre correspondant à Madrid, François Musso.
J'ai compris que mon chef était en train de m'embrasser et cela ne doit pas arriver dans aucun domaine social ou de travail. Je me suis sentie peu respectée. À aucun moment je n'ai recherché cet acte. Je ne m'y attendais d'autant moins que je pense que c'est manquer de respect à ma personne.
Durant 2 heures, Jenny Hermoso a répondu aux questions de la défense. Elle n'a pas été respectée, dit-elle, elle s'est sentie agressée. Et d'ajouter que ce baiser non consenti devant les caméras de télévision a sali, je cite, « un des plus beaux jours de sa vie ». La victoire de l'Espagne au Mondial de football le 20 août 2023. Mais la joueuse, dont le témoignage était très attendu, ne s'est pas limitée à critiquer ce baiser qui a provoqué sa surprise et le sentiment d'avoir été offensée. Elle a aussi dénoncé les gestes de coercition dont elle aurait été l'objet par Luis Rubiales et son entourage dans les heures et les jours qui ont suivi la finale à Sydney en Australie. D'après elle, celui qui était alors le président de la fédération de football lui a plusieurs reprises intimé l'ordre de ne pas exprimer publiquement son malaise après le baiser non consenti. En ce début de procès, plusieurs coéquipières sont aussi appelées à comparaître. François Musso, Madrid, RFI.
Et l'ancien patron du foot espagnol encourt 2 ans et demi de prison. Fin du procès le 19 février prochain. 20h10 à Paris, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, c'est Accent d'Europe.